Ferme les yeux et laisse les parents conduire. Imagine un peu, partir en vacances à vélo en famille. Ça te parle ? PhotoWeb te présente son premier podcast, Les aventures farfelues de Matisse et Rose. Une saga qui réveille ton imagination et t'embarque dans des découvertes pas comme les autres. Un podcast de PhotoWeb, le spécialiste français de l'impression photo en ligne. Disponible sur toutes les plateformes pour les petits comme les grands aventuriers. PhotoWeb, imaginons nos futurs souvenirs.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Et ce midi, on va parler d'un nouvel univers culinaire, un univers en pleine expansion et qui ne cesse de surprendre et d'innover, car nous, on en était restés là.
Chicago, 1928. Le FBI essaie d'endiguer le flot d'alcool prohibé que la pègre ne cesse d'introduire dans les 48 États de l'Union. Le 3 juin, sur les quais, à l'ouest de la ville, les agents fédéraux investissent une fabrique de jouets désaffectée. Ce que les agents fédéraux avaient oublié, c'est qu'à cette époque, pour remplacer l'alcool, on trouvait déjà Canada Dry. Canada Dry avait la couleur de l'alcool. Son nom sonnait comme un nom d'alcool. Sa bouteille ressemblait aux bouteilles d'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool.
Publicité qui date de mai 1975. Or, depuis quelques années, les boissons sans alcool ont pris leur essor, profitant des initiatives telles que le Dry January, janvier sobre, et de l'augmentation du nombre de Françaises et de Françaises qui n'en boiraient plus ou seulement de temps en temps. On pensait que c'était une création marketing, un effet de mode. On découvre un phénomène de société, une tendance de fond avec ses nouveaux métiers, ses nouvelles appellations, mocktail, sobrelier, flexibuveur, client abstème et autres no-lo, termes issus de la contraction de no-alcool et low-alcool. Nous avons donc invité trois sommeliers d'un genre nouveau qui travaillent de plus en plus avec des boissons non-alcoolisées. Benoît Donofrio, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venu sobre. Vous étiez sommelier et vous êtes devenu le premier sobrelier de France. C'est à vous, je crois, qu'on doit cette appellation. C'est la contraction de sobriété et de sommelier. Mais vous vous dites aussi sommelier omnivère sur Instagram, par exemple. On va voir de quoi il retourne. Avec nous, Karine Baudry, bonjour.
Bonjour Caroline.
Bienvenue à vous. Vous êtes née experte en thé pour la maison Nunchen et maître thé pour la maison Grand Jardin. On verra aussi de quoi il s'agit. Et avec nous, à distance, Paz Levinson. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Paz, vous êtes sommelière de la maison Pic, dont la chef Anne-Sophie est la seule femme 3 étoiles Michelin, faut-il le rappeler. Vous avez été, vous, meilleure sommelière des Amériques en 2015 et vous faites partie de ces sommelières d'un genre nouveau. Nous verrons cela également dans quelques instants, mais pour commencer, je demandais, donc s'il s'agissait d'une tendance de fond ou d'un phénomène plutôt de mode, je voudrais poser la question à un journaliste spécialisé dans les vins et spiritueux, c'est peut-être un paradoxe, Fabien Humbert, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes auteur, Fabien Humbert, avec les deux fondateurs de la première cave sans alcool à Paris, Le Pan qui boit, d'un livre qui s'appelle « Sans alcool, mille et une boissons pour un nouvel art de vivre » paru aux éditions Massin. Alors est-ce que vous diriez-vous que c'est une tendance de fond, ces boissons sans alcool ?
Alors déjà, le fait de boire moins d'alcool, c'est une tendance de fond. Hein. Juste dans les années 1960, en France, on buvait à peu près 100 litres de vin par tête de pipe. Aujourd'hui, c'est plus dans les 40 litres. Donc il y a vraiment une baisse assez phénoménale de la consommation d'alcool. On va de plus en plus vers boire moins, mais mieux. Et on pense aussi qu'à peu près 15% des Françaises et des Français en âge de boire de l'alcool qui en fait n'en boivent jamais, alors que ce soit pour des raisons de religion, de goût ou parce qu'ils ont bu trop d'alcool et ils ont voulu vraiment complètement arrêter. Et enfin, il y a le phénomène des flexi-buveurs, c'est-à-dire des gens, bon, bah, un peu comme moi par exemple, qui veulent en consommer moins ou pas à toutes les occasions. Donc oui, il y a vraiment, disons, une tendance, mais qu'elle est pérenne, ça c'est peut-être un peu tôt pour le dire.
Depuis quand on constate ce que vous dites là, Fabien Humbert? Est-ce que le Covid, par exemple, a accentué les choses?
Oui, alors il y avait déjà quelques boissons sans alcool en France, notamment les bières sans alcool. Hein,
ou le Canada Dry, dont on entendait la publicité.
Le Canada Dry, etc., les ginger beer. Mais c'est vraiment avec les confinements et le Covid que ça s'est accéléré. Hein. Certaines personnes ont trop bu à ce moment-là. Il y a eu une augmentation de la consommation d'alcool. D'autres se sont posé des questions et d'autres encore se sont tellement posé de questions qu'ils ont voulu se lancer et créer leur propre boîte de boissons sans alcool. Et la plupart des gens qu'on a interviewés pour notre livre se sont lancés en fait dans ces années-là, 2019, 2020, 2021.
Et de quoi parle-t-on comme boisson? On a entendu des boissons classiques, la bière, le vin, les spiritueux, mais cela peut aussi être des boissons anciennes qui reviennent à la mode, le thé par exemple.
Oui, c'est vrai que le thé, c'est vraiment quelque chose qui marche très fort. Il y a de plus en plus de boutiques de thé spécialisées. Mais ça peut être le café, ça peut être le kéfir, le kombucha, qui sont des boissons fermentées. Ça peut être des jus de très bonne qualité, comme les pétillants de pommes. Bon, il y a aussi toutes ces boissons qui sont des créations complètement nouvelles. Et là, c'est vrai que vos invités sont vraiment spécialisés là-dedans. C'est eux qui créent leurs propres boissons sans alcool avec des produits qu'ils ont dans la cuisine, des produits locaux, etc.
Merci à vous, Fabien Humbert. Je rappelle le titre de votre ouvrage avec Augustin Laborde et Maud Cathé, paru en 2023. Sans alcool, mille et une boissons pour un nouvel art de vivre, paru aux éditions Massin. Karine Baudry, le thé, vous, c'est votre spécialité puisque vous êtes maître thé, vous êtes expert thé. Associer mets et thé, c'est devenu une tendance dans les restaurants gastronomiques en particulier, autant comme alternative à l'alcool que pour expérimenter de nouvelles associations de saveurs?
Oui, complètement. Alors ça fait vraiment plusieurs années, plus de 10 ans que je travaille et que je...
Pas depuis le Covid, vous?
Non, mais alors que dans le thé plus, mais où j'ai vraiment cette conviction que le thé peut prendre place à table et peut être une alternative en fait gastronomique au vin, mais surtout en fait à l'eau, au jus. Et je constate de façon très marquée que depuis peut-être 2 ans, il y a une vraie demande où je travaille de façon beaucoup plus active en collaboration avec les sommeliers, avec les chefs dans les restaurants. Alors, certainement de façon plus marquée pour le moment dans les restaurants gastronomiques étoilés, puisqu'ils vont peut-être initier en fait cette expérimentation. Et la joie dans le thé, c'est qu'on a une boisson extrêmement riche, très proche du vin sur énormément de points, notamment à la fois le sensoriel, donc les arômes, la texture, toute la sensation en bouche, la richesse, la complexité, la longueur, tout un discours qui est très proche du vin, mais aussi, parce que quand on propose le vin, il y a aussi une histoire et on raconte quelque chose et on raconte la plante et les hommes autour, eh bien le thé, il y a cette même approche, c'est-à-dire qu'on parle de terroir, on parle de cultivar, on parle de process, on parle de personnes qui y travaillent et on a tout un tas de thés qui peuvent être différents.
Paz Levinson, vous travaillez à la Maison Pic avec des thés?
Oui, nous on travaille avec des thés, avec beaucoup, beaucoup des autres boissons, bien sûr. Mais oui, les thés, pour nous, un peu historiquement aussi, pour la chef, parce qu'elle adore pour la cuisine, et moi pour les boissons. Donc on s'est trouvé avec cette passion, et ça date, mais on utilise beaucoup d'été.
Vous, votre envie de vous tourner, alors que vous étiez sommelière plus classique, votre envie de vous tourner vers des boissons sans alcool, je crois que c'est né d'un moment personnel, quand vous étiez enceinte, vous en aviez marre, qu'on vous propose que de l'eau au restaurant, et donc, comme le disait Karine Baudry, c'est une forme d'alternative à l'eau, c'est ça?
Oui, exactement. Et moi, j'avais la chance aussi d'étudier dans une école en 2004-2006. Et déjà, on étudiait les thés, les cafés. Donc, c'était une école en Argentine et que c'était un peu avant-garde, je dirais. Et mais oui, bien sûr, j'ai constaté quand j'étais enceinte que les restaurants étoilés, 3 étoiles, il y avait beaucoup qui répondaient pas en attente pour les clients qui voudraient pas d'alcool. Donc on s'est dit avec Anne-Sophie, ça c'est pas possible. Et mais oui, ça fait longtemps qu'on travaille sans alcool, mais là c'était les moments clés.
Benoît Denofrio, ça a été la même chose pour vous. Vous n'étiez pas enceinte, hein, mais c'était un ras-le-bol de boire plutôt de l'alcool, vous, en fait.
Alors, le repositionnement, la prise en compte plus sérieuse des convives qui ne souhaitaient pas s'alcooliser pour un temps court ou un temps plus long, est venu bien avant mon arrêt de l'alcool, évidemment. À partir du moment où moi-même, j'ai pris la décision de m'abstenir, c'est là que j'ai compris qu'à la place des gens qui ne s'autorisaient pas à boire durant les repas, aucune entre les propositions que je leur faisais, quand bien même j'avais déjà opéré à l'époque une sélection un peu plus inconsciente et empreinte d'un désir de recherche de plus de sophistication, même ça, ça ne m'intéresse, enfin ça ne m'aurait pas intéressé à leur place. Et c'est à partir du moment effectivement où j'ai arrêté de m'alcooliser, que je me suis dit, puisque rien ne me convient sur le marché du prêt-à-boire, il va falloir que je fasse les boissons qui ressemblent à ce que j'ai envie de boire.
Et en même temps, l'idée, je crois, pour tous les trois, l'idée n'est pas de remplacer le vin. L'idée, c'est plutôt de remplacer l'eau.
Exactement.
Karine Baudry.
Oui, complètement. C'est absolument pas une guerre contre le vin. Bien au contraire, c'est plus de jouer avec le vin et de proposer aux personnes qui ne peuvent pas boire ou qui souhaitent boire un peu moins. Parce que c'est ça aussi, moi personnellement, j'adore le vin, mais sur certains repas gastronomiques, c'est trop pour moi et je perds ma concentration à la fin du repas et c'est dommage. Donc d'alterner, c'est aussi une très belle proposition. Donc c'est de faire en sorte que à la place de l'eau, on ait quelque chose qui soit intéressant, sensoriel, percutant, avec une histoire, avec un intérêt, tout comme le sommelier le propose avec le vin, qu'on ait la joie d'avoir quelque chose dont on peut parler, dont on peut imaginer et avoir le choix, en fait, dans ces boissons sans alcool.
Oui, alors, moi, plutôt que de parler d'alternative, j'aime bien parler d'élargissement, finalement.
On
élargit la possibilité des recours à table. Un peu plus tôt dans la discussion, on a évoqué la place que peuvent avoir certaines boissons à table. Moi, je suis convaincu que bon nombre de liquides ancestraux et des liquides dont on n'a pas encore fait émerger les recettes ont leur place à table, à condition qu'on y mette toute l'intention qui est nécessaire pour faire soit un accompagnement de plat, soit un accompagnement juste de moment. On oublie que la boisson peut aussi simplement avoir des propriétés apéritives, des propriétés digestives. Et j'en viens un peu aussi aux origines du mot de sommelier. Le sommelier, la sommelière, à aucun moment étymologiquement n'est renvoyé au service de la boisson. Elle est renvoyée à sa fonction première, qui est celle d'intendante ou d'intendant, à la cour des rois, des reines, des impératrices, des empereurs. Et c'est après, au fil de la pratique, que la figure de sommelière et de sommelier s'est spécialisée ou a été préposée au service de la boisson, mais de la boisson, avant de se spécialiser, avant d'être cantonnée au service du vin, plus particulièrement, et de l'alcool. Donc aujourd'hui, avec ce mot, ce néologisme sobrelier, ce que je veux vraiment mettre en lumière, finalement, c'est presque un renouement avec la fonction pratique première des agents de sommellerie.
Benoît Denofrio, en janvier 2024, avec le critique gastronomique Aitor Alfonso, vous avez signé un manifeste pour une sobriété joyeuse, dans laquelle on peut lire que boire sans est un choix qui n'annule pas le fait de boire avec quand on le désire, et que l'idée, c'est d'étendre le domaine du goût, d'où votre terme d'élargissement, des plaisirs en découvrant d'autres arômes, de profiter du moment l'esprit clair, ça je trouve ça très intéressant, profiter du moment l'esprit clair, s'offrir des lendemains qui chantent, ça aussi aujourd'hui c'est très intéressant d'offrir des lendemains qui chantent, et avoir la gueule de joie plutôt que la gueule de bois, c'est joli ça aussi.
Oui, alors, Gueule de Joie, petit clin d'œil à l'équipe de Gueule de Joie, qui est une marque de distribution de boissons alcoolisées, qui fait un très beau travail, déjà depuis 2019 ou 2020, me semble-t-il, et qui a été l'un des fers de lance de la proposition du sans-alcool en France.
Paz Levinson, est-ce que ça suppose une nouvelle formation à partir des infusions de fruits, de légumes, d'herbes aromatiques? Est-ce que c'est une révolution quand même du métier de sommelier?
Oui et non, mais j'ai rejoint Benoît. Pour moi, la sommellerie, c'était toujours tous les boissons, en fait, tous... Tout ça nous appartient, on va dire, et je peux pas, on va dire, passer à côté de quel eau on serve, de quel thé, de quel café. Et c'était un peu cette vision, c'était toujours dans mon esprit et dans l'école où j'étudiais. Mais après, c'est vrai que la conscience des produits dans une table, ça a pris plus de force. Et c'est vrai que après, quand je suis arrivée en France en 2013. J'ai travaillé pour les restaurants 3 étoiles aussi, mais c'est vrai que les sommeliers ne touchaient pas les thés, les cafés, tous les autres boissons, même les cocktails que j'adore de faire, ou les mocktails, ils ne touchaient aucune des autres boissons et seulement les vins. Et moi, j'ai trouvé ça pas pertinent pour notre métier et très éloigné de notre métier. Et donc, quand on s'est rencontré avec Anne-Sophie en 2018, on a commencé à travailler. C'est une évidence que je voudrais et elle aussi mettre tous les boissons dans le niveau 3 étoiles ou on va dire dans chaque restaurant. Il faut qu'il y en ait irréprochable dans les niveaux boissons comme dans l'assiette. Et ça, c'était pour moi un objectif très, très, très important dans tous les restaurants. Donc, tous les restaurants, ils servent un sans alcool aussi.
Vous allez nous dire d'ailleurs comment vous travaillez avec les chefs. D'ailleurs, tous les trois, vous allez nous le dire.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui.
Vous aurez évidemment reconnu Bourville dans ce sketch inénarrable. On parle de l'eau ferrugineuse dans cette émission des bonnes choses ce midi sur France Culture. Plus exactement, on parle des mocktails, ces cocktails sans alcool pour l'été. Alors justement, comme l'été sonne avec le soleil, est-ce que vous pourrez nous donner tous les trois des exemples de ces recettes liquides de vos compositions? Vous avez d'ailleurs apporté à cette table, Karine Baudry, une installation de thé merveilleuse dont vous allez nous parler. Et vous avez devant vous, Benoît Donofrio, une bouteille en verre d'un mélange, d'un assemblage, une très jolie couleur rouge cerise, un peu clair. Hein, bon, alors qu'est-ce que c'est? On va boire peut-être pas moi, mais on va faire goûter à Karine.
Avec plaisir.
Présentez-nous la chose.
Et là, il s'agit d'un extrait de mûres, les premières, foulées à la main. Pour en extraire donc le jus, et je laisse macérer pendant quasiment 48 heures. Après quoi, je filtre pour récupérer juste le jus qui s'est enrichi de l'eau de végétation des mûres. Je récupère une partie de la matière résiduelle de toutes ces mûres et la lance en décoction pour obtenir finalement une eau qui aura chauffé. Grâce à la chauffe, elle aura été débarrassée de tous les agents qui détournent l'eau de son cadre d'expression net et de tous les agents toxiques qu'on ne souhaite pas consommer. Cette décoction, je l'assemble ensuite au jus de mûres fraîchement extrait et je lance en fermentation la boisson avec une partie de la matière résiduelle des murs foulés qui ont fait partie de la phase de macération, puisque ces morceaux de murs sont encore riches en levure, et la boisson de base, elle, est riche d'un tant soit peu de sucre. Et j'alimente également, je renforce en levure avec des pots de betterave et de la reine des prés.
Donc c'est essentiellement de la mûre, un peu de betterave, de la reine des prés. Et avec quoi vous pensez que ça va bien en bouche, avec quel mets cela s'accompagne?
Ça, très exactement, je l'avais pensé pour le plat d'un chef que j'ai eu la chance d'accompagner il y a quelques jours. Je parle de Juan Pablo Rojas Pineda. Et son plat était un plat de palourdes fumées, accompagné de riz rouge de Camargue, d'ogao, de blette et de sauce cumbia. La sauce cumbia, c'est une recette à laquelle il a donné ce nom, parce que c'était une sauce qui invitait à danser, un peu relevée, très concentrée, avec des tonalités un peu de fumée, de crustacés et de poissons.
Mais comment vous vient l'idée? Vous avez le droit d'ouvrir la bouteille à un moment.
Ah oui, bien sûr.
Si vous arrivez à faire les deux, hein, c'est-à-dire me parler. Comme vous n'êtes non alcoolisé, vous pouvez arriver à ouvrir la bouteille en même temps que vous parlez. C'est ça qui est bien aussi. Vous pouvez, on va servir le vin en question, le breuvage plutôt que le vin, le breuvage à Karine. Karine Baudry, voilà, c'est difficile de parler en même temps que je tends le bras.
Merci.
Et pendant que Benoît se réinstalle à table.
Tenez.
Merci. Je vous en prie. Benoît, dites-nous comment vient, sur cet exemple-là, comment vient l'idée du plat, comment travaillez-vous avec le chef? Comment vient l'idée du plat, du breuvage qui va avec le plat?
Ceci, le plat. Ouais. Alors, dans un premier temps, les chefs avec lesquels je compose m'envoient, me soumettent leurs énoncés de plat. À partir de là, très spontanément, la première chose qui m'arrive, c'est que je visualise une couleur. C'est une tendance légèrement synesthète que je développe pas seulement avec la nourriture, mais avec la musique notamment. Et cette couleur va guider dans un premier temps ma recette. Je vais tout du moins probablement viser d'atteindre cette couleur dans le verre. Et après, c'est un jeu de pont entre tous les plats qui se trouvent dans le menu. Je vais m'accorder une contrainte positive qui est de valoriser un maximum d'entre les parures, toutes les chutes de produits qui habituellement finissent soit au compost ou à la poubelle. Et je vais m'imposer aussi de ne recourir autant que possible qu'aux mêmes ingrédients qui ont été utilisés par la cuisine. Alors pas pour les faire intervenir dans la boisson qui accompagnera le plat dans lequel de tels ingrédients ont été employés, mais pour faire des effets de rappel ou d'annonce d'un plat à l'autre.
Karine Baudry, vous avez goûté ce breuvage à la mûre, à la betterave et à la reine des prés. Qu'en dites-vous ?
Très, très intéressant. Je trouve très intéressant, notamment dans la polysensorialité, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre des parfums qui n'est pas trop dominant. La betterave apporte un tout petit côté légèrement terreux en fond, la reine des prés arrondie, et on a la mûre, mais elle ne prédomine pas. Donc je trouve qu'il y a vraiment un équilibre entre les trois. Et ce qui est intéressant et ce que j'adore dans les accords, c'est que c'est pas trop sucré. Ça joue entre la sucrosité, une fine acidité, et voire même une légère astringence derrière qui fait que ça reste en bouche et que ça doit parfaitement accompagner le plat.
Le plat en question. Paz Levinson, est-ce que vous travaillez comme Benoît D'Onofrio en suivant, par exemple, une couleur? Comment vous vient l'idée, vous qui travaillez avec Anne-Sophie Pic, je le rappelle, pour la Maison Pic?
Merci. On part plutôt sur les goûts. Aussi la texture qu'on souhaite pour les plats. La couleur, si ça va bien avec les plats, tant mieux. Mais c'est pas la première chose à ce que je pense. Mais surtout, la matière première, la combinaison des parfums, des saveurs, la texture surtout. Comment arriver aussi d'une boisson sans alcool, avoir des belles textures, si on a besoin de tannins, si on a besoin une texture plus suave. Donc c'est vrai que ça, c'est par rapport à plat, l'inspiration qu'on goûte, bah déjà on entend la recette, l'inspiration qu'en suffit. Après, nous, on crée un peu ensemble tous les boissons qui ça peut convenir. Et après, on fait la dégustation et on choisit ensemble. Ça, c'est la démarche. Et si la couleur, il va bien avec le plat, tant mieux.
Alors vous n'êtes pas autour de la table, vous n'avez pas cette chance, mais comme d'ailleurs nos auditeurs et nos auditrices, de pouvoir goûter, mais grâce à nos deux invités, nous avons les mots sur les sensations. Pendant que vous parliez, Pat Levinson, Karine Baudry est en train de préparer sa décoction de thé. Vous vouliez ajouter quelque chose, Benoît ?
Oui, j'ai certes parlé des couleurs, c'est quelque chose que je ne contrôle pas, mais effectivement, dans le cadre de l'élaboration de la boisson, je songe aussi aux accords texturaux.
On n'en doutait pas. On n'en doutait pas. Rassurez-vous. Karine Baudry, alors vous avez toute une préparation de thé devant vous, mais par exemple pour la marque Grand Jardin, vous faites des thés grands crus qu'un sommelier sert dans des verres à vin depuis une bouteille de vin et vous en avez apporté une. Donc on a l'impression que vous avez apporté une bouteille de vin, que vous les servez dans du vin, mais c'est un peu comme le Canada Dry du début. Ça a la couleur du vin, peut-être même l'odeur du vin.
Exactement.
Mais ça n'est pas du vin.
Exactement. C'est toute la beauté de ce joli concept, c'est de modéliser en fait dans une bouteille de Bourgogne du thé à la manière du vin. Donc non seulement dans une bouteille de vin, mais avec le rituel du vin, donc c'est-à-dire dans un verre à vin, et je vous le passe Benoît, dans un verre à vin qui apporte en fait cette à table. On parlait des personnes qui ne boivent pas d'alcool. Eh bien là, elles sont complètement incluses en fait dans le partage et dans aucune différenciation, puisque la bouteille est là, le verre à vin est là, et on a exactement le même rituel.
D'ailleurs, Benoît est en train de faire tourner le verre et de le sortir exactement comme on le fait d'un vin. Vous l'avez senti, Benoît D'Onofrio ?
Oui, je viens de plonger mon nez deux fois.
Vous pouvez le goûter maintenant ?
Oui, bien sûr. Mais déjà, au nez, je tiens à dire qu'il y a...
Je rappelle qu'il s'agit d'un thé. Hein.
Il s'agit d'un thé, mais avec beaucoup de complexité. Je trouve qu'il y a une ouverture sur le fruit légèrement blette, presque confit, avec des parfums un peu de cuir. Ça me rappellerait, et là j'en profite puisque c'est comme ça que s'annonce Grand Jardin, à la manière des vins, c'est qu'ici, je serais tenté de le rapprocher d'un profil oxydatif ou de vin un peu âgé avec qui développe des parfums déjà très très tertiaires.
Alors pendant que vous buvez, je dois dire que là, ce que vous nous proposez autour de la table, ce sont des mocktails, des boissons non alcoolisées, mais d'un certain standing. On parle de maison 3 étoiles, on parle de restaurant gastronomique. On a envie que tout ça arrive à la maison, hein, descende d'un cran pour pouvoir profiter de ces bonnes choses et que ça soit accessible.
Mais c'est en effet le cas et le thé comme les boissons sans alcool sont aussi très accessibles.
Et on peut en faire à la maison. Je crois que vous nous proposez des recettes l'un et l'autre. On va essayer de mettre ça sur notre site, sur notre page internet.
Oui.
Des bonnes choses pour pouvoir goûter. Moi, j'ai eu la chance de goûter, par exemple, un vin pétillant bio sans alcool qui s'appelle French Bloom, qui est très bon. Pour l'instant, c'est cher, hein, parce que c'est sans alcool et c'est 29€ la bouteille. Mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est les bulles, alors que c'est sans alcool, ça a l'effet de l'alcool.
C'est du vin désalcoolisé.
Mais c'est du vin désalcoolisé, voilà, exactement. Bon, mais merci beaucoup
merci,
à tous les trois, Baz Levinson, Karine Baudry et Benoît D'Onofrio. On continue de boire le sans alcool ici. Tout l'été, les bonnes choses prennent le chemin des vacances, mais vous pourrez entendre une sélection des meilleures émissions que vous avez manquées cette saison. Rendez-vous dès dimanche prochain avec La Cuisine en s'amusant. En attendant, vous l'aurez compris, restez sobre grâce au mocktail d'été, ce qui vous permettra de ne pas oublier aujourd'hui d'aller voter. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec l'équipe de production et de réalisation, c'est Amboutata, Louise André et aujourd'hui Florent Bujon à la console technique. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et un excellent été à l'écoute de France Culture.